Cette semaine sur RCF, trois journalistes et Charles de Clercq vous donnent rendez-vous pour un débat. Quatre critiques cinéma sans coup. Voici les quatre sans coup.
Nous nous retrouvons pour la deuxième émission de la nouvelle saison des 400 coups avec, comme chaque fois, trois invités. La première invitée, c'est Véronique Chartier. Véronique, bonjour.
Bonjour.
Nicolas Gilson, bonjour.
Bonjour.
Et Eric Van Kutsem.
Bonjour Charles.
Véronique, vous êtes une des co-rédactrices du site web Écran Étoile avec votre compagnon François, qu'on a déjà reçu à l'antenne. Vous avez également deux autres collaborateurs, je pense.
Exactement, on a Fanny qui s'occupe de la rubrique série et on a Thomas qui est plutôt spécialisé dans la comédie.
Alors Nicolas, vous êtes le rédacteur, le responsable du site web ungrandmoment.be.
Oui.
Vous êtes une voix également de Musique 3 sur la RTBF, sur nos confrères de RTBF.
Effectivement.
Et vous allez assurer le retour, un certain retour en tout cas, ou un certain regard sur le festival du film de Namur.
Oui, je vais réaliser des petites vidéos pour le festival.
Son et vidéo ou bien uniquement des vidéos?
Comme j'ai plusieurs casquettes, j'aurai plusieurs casquettes sur le festival, mais il y en aura une qui consistera à réaliser des interviews pour le compte du festival.
Donc on verra ce que vous nous montrerez, on ne vous verra pas vous.
On ne me verra jamais.
On ne vous verra jamais. On peut voir certaines de vos photos sur le site de Musique 3. Hein, il y a une photo de vous de temps en temps.
On a eu des photos corporates.
Oui, parce que j'ai vu sur votre page Facebook récemment que vous avez refait tout le profil des photos. Hein.
Oui, j'ai eu plusieurs photos. Choisir.
Et vous, Eric Van Kutsem, vous êtes un des premiers à vous être lancé dans le Web 2.
Oui, il y a très longtemps.
Il y a très longtemps.
En 96.
Et vous aviez une très grande équipe à ce moment-là, une grande équipe en tout cas.
Oui, et puis qui a été grande jusqu'à à peu près le début des années 2000, oui, où on était plus une dizaine ou quinzaine, oui, dépendant.
On va rappeler le nom de votre site.
Oui, donc c'est Synopsis avec un jeu de mots, donc ciné comme Synopsis comme ciné, donc Synopsis. .be.com.ch, enfin, tout ce que vous voulez.
Donc, pas encore CN, parce que les Chinois, paraît-il, acheter certains noms de domaines. Nous aurons trois films à l'affiche de cette émission et nous entendons la bande-annonce du premier qui s'intitule Loveless.
Она себя со мной так тупо вела. Злая, одинокая стерва.
Родила на свою голову. Ты погляди, на кого ты похожа стала, а?
На кого?
Да, блядь, вот на кого!
Мужа не любила.
Я тебя уже физически не могу ни видеть, ни слышать. Что ты здесь трешься? Ведь все уже, все!
Да я такое же право имею, как ты!
Да имеешь, ты имеешь свое, так и так получишь.
До него у меня не было никого. Ты с ним залетела по глупости.
Я такого не хотела.
Потом, когда его принесли, я даже смотреть на него не могла.
Здорово с людьми.
Здрасте.
12 лет, дикарь-дикарем. Чуть что, сразу в слезы.
Так хочется быть счастливым.
Че квелый такой? Заболел?
Я не квелый.
Ладно, оставь, я уберу. А спасибо.
Пропал.
Че, ну придумали, что ли, да? Ты же сказала, вы разводитесь. Че, выпивку свою решил на меня, что ли, повесить, да? Вот это вот, видела?
Как же так вышло, что ты пел мне про любовь, а в итоге только боль и разочарование. Непроглядная, полная говна шопа.
Loveless, faute d'amour. Nicolas Gilson, c'est un réalisateur que vous aimez, mais pas toujours.
Oui, c'est un réalisateur que je peux adorer et détester en fonction des films, donc c'est toujours une surprise. Et là, c'était une très agréable surprise, enfin très agréable. Comme on peut l'entendre, s'il reste encore des auditeurs après cette bande-annonce, comme on peut l'entendre dans la bande-annonce, c'est pas le film le plus joyeux qui soit, c'est pas la comédie de l'année. Et donc, si on peut être agréablement surpris par un film plutôt douloureux, j'ai été agréablement surpris par celui-ci. C'est extrêmement glaçant. Donc, le réalisateur Dyagintsev, que vous direz sans doute mieux que moi. Mais...
Je ne vais pas le répéter.
Donc, Andrei Dyagintsev, voilà, avait fait Léviathan, qui est une sorte de comédie que je ne trouvais pas drôle du tout. Et avant ça, il avait fait notamment Elena, qui pour moi était un film formidable. Il revient ici à une photographie extrêmement glaçante. Il laisse de côté l'humour de Léviathan, en tout cas le gros trait de Léviathan, et il revient à une photographie extrêmement réaliste de la Russie contemporaine, et il l'envisage à travers un couple qui se déchire, et un couple qui se déchire tellement, et qui est tellement maintenant, où les deux membres de ce couple, séparément, sont tellement égoïstes et égocentrés, qu'ils ne se rendent même pas compte que leur fils disparaît. Et donc, nous, on est confrontés à ce fils, on est confrontés à la douleur du fils, c'est peut-être la partie la moins... Je ne vais pas dire réaliste, mais en tout cas la plus mise en scène du film. On voit la douleur, on ne l'épargne pas. Et puis, une fois que ce fils disparaît, il y a une forme de thriller, puisque soudainement, les parents se retrouvent confrontés à cette réalité. Mais cette réalité, ils se la crachent l'un l'autre à la figure. Ce sont des personnages assez abjects, ce sont des personnages sans aucune concession. Mais le portrait... Que fait d'eux, au final, le réalisateur devient un vrai portrait de société et devient un portrait miroir.
Véronique.
Oui, mais tout ce que Nicolas a dit est tout à fait juste. Ça m'a énormément frappée, en effet, ce prétexte à montrer une Russie en perdition, une bureaucratie excessivement lente. On avait déjà pu le mesurer dans un autre film, Une femme douce. Ce qui m'a particulièrement frappée, c'est qu'on n'a aucune empathie pour les personnages, si ce n'est ce petit garçon, justement, qui est quasiment absent du film. Et ce qui est vraiment important dans ce film, c'est que finalement, on se rend compte qu'aucun des parents ne connaît son enfant. Ils ne savent pas les prénoms des petits camarades, ils ne savent pas où il pourrait traîner. Donc, on se rend compte que cette famille était déjà inexistante, comme le couple inexistait aussi, finalement. Deux comédiens extraordinaires, mais pour qui on n'a vraiment aucune empathie de par leur caractère.
Mais ce manque d'empathie, enfin pour moi, est dans la démarche. C'est-à-dire qu'il y a une manière aussi de les filmer. On se rend compte qu'ils sont totalement déconnectés de la réalité quelque part, en tout cas de leur fils. Et ils sont par contre multiconnectés. C'est-à-dire que le mari est en dialogue avec sa future nouvelle femme qui l'a engrossée. La femme est en dialogue constant avec son amant qui a de l'argent et qui va pouvoir... On pourrait être dans des formes de caricature. En même temps, je trouve que les portraits sont très justes. Mais on se rend compte que ces gens sont multiconnectés. Et plus ils sont connectés, plus ils sont déconnectés. On a aussi tout un portrait en arrière-fond des médias. Oui. Et donc on est aussi dans une... Enfin, on est dans la Russie contemporaine, mais on est au-delà de la Russie. Je pense qu'il y a un portrait qui en tout cas touche à la fois l'Orient et l'Occident par rapport à nos sociétés dites modernes.
Ça s'est situé entre 2012 et 2016 environ.
Oui, parce qu'il y a aussi des référents historiques, ce qui n'est pas inintéressant.
On y reviendra sur ce qu'on entend à la radio et ce qu'on voit à la télévision. Éric, qu'en pensez-vous de ce film ?
Ah, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est-à-dire que c'est vraiment une descente aux enfers spirituels ou enfin intellectuels. C'est effrayant parce que, comme disait très bien Nicolas, c'est qu'il y a quelque chose qui est dans la mise en scène, nous fait vraiment détester ces deux parents qui se déchirent et qui en fait ne considèrent que voilà, ils ne voient vraiment que essentiellement, et ils oublient complètement leur enfant, et la mise en scène est très très forte là-dessus. On voit cet enfant sur plein de plans, et en fait cet enfant, c'est comme s'il était jamais là. Et ça, c'est une réussite exceptionnelle, parce que ce n'est pas toujours évident. Quand on montre quelqu'un à l'image, on a l'habitude de dire « bon, ben, c'est cette personne qui est le centre de quelque chose ». Et bien là, non, il arrive, tout en montrant beaucoup l'enfant, il arrive à nous dire « ben voilà, non, ben, lui, il est pas là, en fait ». Alors que, bon, bien sûr, c'est lui qui prend, et alors il prend vraiment... C'est ça qui est bien rendu, c'est qu'en tant que spectateur, moi, j'ai vraiment l'impression de me prendre tout ce que l'enfant devait recevoir de ses parents comme atrocité. C'est-à-dire on se prend tout dans la figure au premier degré. Et ça, c'est assez effrayant. Pour en revenir à la Russie, c'est vrai que dans Léviathan, on avait aussi la même chose. Il y a une critique. Bon, il n'est pas tendre sur son pays. Bon, ceci dit, il y a beaucoup de réalisateurs des ex-pays de l'Est qui ne sont pas tendres sur leur pays. Quoi.
Ce sont les films qui nous parviennent aussi, parce que je pense que les films pro-Russie ne sortent pas. Et il y en a quelques-uns. Mais...
Le film ici commence par une sorte de plan fixe sur une cour. Il n'y a personne pendant quelques secondes, comme dans Elena, si je me souviens bien.
Avant ça, il y a, comme dans Elena, la nature. Il y a l'importance de la nature, l'importance vraiment du contexte.
Oui, on est dans la forêt, avec un ruban blanc et rouge. Oui.
Ou en tout cas, on est au bord d'un étang. Oui. Et ensuite, effectivement, il y a ça, il y a une sortie d'école. On voit en tout cas
d'abord, on ne voit
tout
rien.
Le monde.
Le bâtiment, tout d'abord, sans rien.
Oui. Effectivement, on ne voit rien, on a ce plan fixe, mais ça pose aussi le cadre esthétique du film. On va être dans une forme de fixité, on va ensuite être dans une forme de frontalité aussi, et donc il ne se passe rien, puis on a cette sortie d'école, et parmi ces gens qui sortent de l'école, on a le jeune protagoniste du film, et d'entrée de jeu, avant même qu'on ne sache quoi que ce soit, on sait qu'il y a un problème, quoi. Ouais.
Véronique,
c'est vrai que la trace de ce petit ruban de construction, finalement, c'est la seule présence qui sera là du début à la fin du film. C'est la seule trace que laisse cet enfant, si ce n'est sur l'affiche. Et peut-être qu'on pourrait penser, quand on voit et le résumé et l'affiche du film, c'est qu'on pense que ça va être centré sur ce petit garçon, justement.
Mais en même temps, c'est centré sur lui, oui. Puisque ça devient sa disparition.
Exactement.
Qui anime tout le monde, qui va réanimer quelque part, où on pourrait l'espérer, ça c'est à voir, qui pourrait réanimer en tout cas les parents. Mais on va voyager dans la Russie profonde, on va se rendre compte aussi qu'il y a des vrais enjeux générationnels, des vrais conflits, que si ses parents sont dans cet état-là, c'est peut-être aussi à cause de la génération avant eux, et que ces fautes d'amour, ces défauts d'amour, ils sont là depuis très longtemps.
Oui, parce qu'il y a une scène avec une mère qui est terrifiante.
Mais il y en a deux, puis c'est aussi la belle-mère, enfin la belle-mère de la nouvelle belle-mère. Donc on se rend compte que dans les jeux de génération, il y a des rapports très différents, donc on peut être très proche de ses parents ou pas du tout, mais en même temps, l'éducation qui est transmise, s'il y en a une, n'est pas non plus toute rose.
Et c'est vrai que ces fautes d'amour sont plurielles, ce qui n'est pas vraiment retracé dans le titre traduit, mais il y en a en effet depuis toujours. Chaque personnage a été écorché par un passé qui est difficile.
Mais on voit bien, le père comme la mère ont effectivement un gros problème. Le père avec sa maîtresse, ou en tout cas sa nouvelle femme, on ne sait pas très bien qui c'est, effectivement, qui est enceinte. Il a déjà des problèmes avec elle de toute façon, alors qu'en principe, bon, bah, s'il a été vers elle et s'il lui a... donner un enfant, ça ne devrait pas être le cas. Et ne parlons pas de la mère qui, avec son amant richissime, ne trouve rien d'autre que ça, effectivement, qu'une richesse, mais qui n'a rien à voir avec la richesse d'amour, ça c'est clair.
Et bizarrement, une des forces, alors que je serais le premier à crier en me disant « Mon Dieu, mais quel portrait de femme, elles sont toutes vénales », mais il est tellement à charge de tout le monde. Mais en fait, il n'est pas à charge. Il est tellement neutre, peut-être, dans son approche, mais il dépeint des personnages qui sont tellement sombres, qu'on n'est pas dans le cliché, on est au-delà du cliché, on est vraiment dans des situations dont les protagonistes, enfin les personnages, pardon, ne se rendent même pas compte.
Mais c'est un réalisateur qui, et ça c'est vrai je pense pour beaucoup de ses films, mais en tout cas, c'est un réalisateur qui prend presque jamais parti. En fait, il est en train de nous donner quelque chose et effectivement, il le tourne, forcément, il le tourne d'une certaine façon et il le met en scène d'une certaine façon. Et c'est vrai que bon, il prend pas parti, mais sa critique sur la Russie, par exemple, est très évidente. Mais en même temps, il arrive à garder ce regard. Il nous montre quelque chose sans nous dire c'est ça qu'il faut penser, quoi. Et de la façon dont il le met en scène, bon, eh bien, de cette manière-là, on finit par penser ce que lui a voulu nous faire voir. Mais il n'est pas insistant, je trouve, ce qui est parfois lourd quand on a une insistance sur les choses.
Il n'est aucunement didactique.
Non.
Il nous confronte à une situation. Et surtout, alors qu'on a plein de questions, il nous confronte à des personnages qui ne se posent pas forcément les questions qu'on va se poser.
Et donc pour lesquelles on n'a pas de réponse. Déjà, dans le retour, il n'y avait aucune réponse sur la...
Non. Mais Elena, y en avait, par exemple. Mmh. On n'avait pas forcément envie de les avoir. Mmh. C'est un portrait assez, assez cru. Moi, je le rapproche beaucoup plus d'Elena, surtout pour l'ouverture et la clôture du film. L'entrée et la sortie, on a vraiment ce rapport à la nature, si ce n'est que dans Elena, on avait une nature plutôt verdoyante. Et ici, on n'est pas vraiment dans du verdoyant.
Il y avait aussi le rôle de la police qui est inactif pour les citoyens ordinaires et un mouvement citoyen qui est en quête d'aider les parents pour trouver des personnes disparues.
Oui, mais un mouvement citoyen que personnellement je trouve très paradoxal parce qu'ils fonctionnent comme des militaires et ils sont beaucoup plus militarisés encore que la police qui est gangrénée, mafieuse, plus équipée, mais étrangement équipée. C'est-à-dire qu'on est vraiment c'est une milice citoyenne.
C'est paramilitaire en fait.
Et ça, enfin. À titre personnel, ça fait encore plus peur que, oui. Je veux dire, à la limite que l'administration semble caricaturale et qu'elle ne fasse rien, c'est une chose. Mais quand on se rend compte que l'organisation citoyenne est loin d'être démocratique...
Et qui existe, c'est une association réelle qui existe là-bas et qui s'est mise en place devant la curie des pouvoirs.
Mais moi, ça m'a amusé, je le dis bien sûr ironiquement, mais oui, ça m'a amusé parce que j'ai vu le parallèle qu'on voit dans beaucoup de films américains aussi et dans la réalité américaine aussi. C'est des milices de quartier qu'on voit dans pas mal d'endroits aux États-Unis et qui sont décrits dans les films et où là, effectivement, on a aussi une organisation quasi militaire ou paramilitaire. Et c'est amusant, et c'est là que je reviens sur mon côté amusant, c'est amusant de voir que la Russie moderne, en tout cas, tombe dans la même caricature que effectivement les Américains dans ce cadre-là. Quoi.
Mais complètement, c'est là où en fait il n'y a plus de différence quelque part entre l'Orient, le Grand Orient et le Grand Occident. On est dans une société consumériste de la même manière. Quoi.
Un dernier mot, Véronique, enfin il nous reste...
C'est joyeux hein, pour ouvrir l'émission.
Exactement.
Le film suivant, on verra encore ce que nous pourrons penser. Hein. Véronique, quelques mots encore, il nous reste 2-3 minutes.
Un film étonnant, je pense que c'est vrai que c'est un cinéma vers lequel on n'a peut-être pas envie de se diriger, pourtant il recèle de belles pépites et Loveless en fait partie.
Oui.
Oui, je pense que c'est un film accessible en plus, c'est ça le pire peut-être.
Parce que comme il n'est pas, on ne va pas le trouver, on parlait de la version française, donc on se disait, on va fuir après la bande-annonce que nous avons diffusée sur RCF en se disant, mais c'est quoi ce film? Mais en même temps... on n'aura pas les moyens d'en faire une version française et il faut peut-être le voir en version originale pour en saisir toute la substance.
Comme toujours. Bah,
c'est-à-dire, oui, pour avoir de toute façon presque toujours, effectivement, comme dit Véronique, il n'y a rien à faire. Il faut avoir l'intonation et ici, on l'a très bien entendu dans la bande-annonce, alors que c'est effectivement incompréhensible, en tout cas pour la majorité d'entre nous. On a une idée très nette de ce dont parle le film, quoi, parce que dans les excès qu'il y a et dans les colères qu'il y a, on voit bien qu'il y a il y a un problème quelque part, en tout cas.
Et surtout l'approche, comme on est dans une forme de fixité aussi. On a cette fixité, les personnages qui jouent, on va dire, dans le cadre, on a l'impression de les saisir. On n'a pas l'impression qu'on est en train de mettre en scène quelque chose. On a l'impression qu'on est témoin de ce quelque chose. Et le fait d'en être témoin, je pense que la version originale se justifie d'autant plus.
Et encore un dernier mot sur l'arrière-fond sonore. C'est notamment la guerre en Ukraine qui est présente.
Oui.
On entend à la radio, enfin, de temps en temps.
Ce qui est un positionnement politique très fort de la part du réalisateur. Maintenant, ça, on le voit ou on ne le voit pas. Oui, ça nourrit le film, ça l'encadre aussi. C'est ce qui permet de voir que les années ont passé. Mais il y a aussi une petite orchestration musicale qui est assez intéressante. Il n'en abuse pas et ça nous permet quand même de voyager dans le film aussi.
Nous allons maintenant voyager vers un autre film, écouter une autre bande-annonce. Il sera question d'une mère, mais écoutons tout d'abord la bande-annonce.
He's a stranger. We're just gonna let him sleep in our house.
Mother.
We spend all our time here. I want to make a paradise.
She redid all of it. Every last detail. And she breathed life back into every room.
Are you happy?
I love you.
Please, come in. Hello.
Hello. He's a stranger. We're just gonna let him sleep in our house.
Hello.
Hello.
Did you know he had a wife? He has pictures of you in his luggage.
What were you doing in their luggage?
What do they want?
God help you.
They've come here to see me.
Come quick! You're insane! You're insane!
All I'm trying to do is bring life into this house. Open the door to new people, new ideas. I'm so sorry.
Get out of my house! Yeah!
You give and you give and you give.
It's just never enough.
La bande-annonce laisse déjà augurer des choses étonnantes. Véronique, vous commencez à parler du film ?
Oh, je peux, mais je ne suis pas sûre que je vais le servir au mieux. J'avoue que pour moi, quand je suis sortie de la salle de cinéma, je me suis sentie oppressée, agressée. Moi qui aime aller au cinéma pour découvrir des choses et prendre un réel plaisir, je suis sortie de là vraiment énervée, je crois que c'est le mot. Je peux comprendre que ce sont des allégories, que la mère qu'on voit finalement n'est pas une maman dans le sens premier du terme, mais certains disent que c'est une mère comme la terre. On a beau mettre des allégories dans les films, pour moi, on ne peut pas tout faire. Il y a une scène qui m'a amenée dans un point de non-retour dont je ne parlerai pas. Mais vraiment, pour moi, ça a été le film que j'attendais et qui n'a répondu en rien aux attentes que j'en avais. D'ailleurs, la bande-annonce est, à mon sens, très mensongère sur ce qu'on peut trouver dans le film. Maintenant, voilà, il a de très belles qualités de réalisation, d'interprétation, c'est incontestable. Je n'ai pas vu Noé ni De Fontaine qui, visiblement, sont dans la même mouvance. Et j'ai envie de dire, fort heureusement, je suis restée à Black Swan et Requiem for a Dream. Donc, pour moi, découvrir un Darren Aronofsky sous cet angle-là n'a pas été pour moi une des plus belles surprises.
Vous l'aviez vu à Deauville, c'est ça ?
On devait le voir à Deauville, mais on est arrivé beaucoup trop tard. C'était le vendredi de l'hommage à Darren Aronofsky. On l'a rattrapé en salle dans une VF qui, je dois l'admettre, est assez mauvaise.
Tandis que vous, Nicolas, l'avez vu
Moi, je l'ai vu à Venise.
À Venise, en version originale.
En version originale, à Venise, quand il s'est fait copieusement huer par la salle.
Il n'y a pas eu des applaudissements, quand même
Non, en tout cas, visiblement. Je n'ai pas été à la projection de 8h du matin. Je suis allé à celle de 11h. Et à la projection de 11h, il y a eu très peu d'applaudissements, beaucoup de huées. Et du coup, les huées ont vraiment dominé. Des fois, en festival, il y a ce genre de ce combat.
Entre
il y a ceux qui applaudissent, puis il y a ceux qui huent, et puis ceux qui veulent attendre pour réapplaudir. Ça semblait visiblement plus mitigé à 8h du matin, mais visiblement, le booing a dominé.
Pour vous, quelle est votre réaction par rapport ?
Pour moi, il nous emmène sur plusieurs lignes et qui sont pas toutes compréhensibles, en tout cas pas compréhensibles a priori. Maintenant, au moins, ça donne l'intérêt de nous conduire à creuser, à dire, bon, alors qu'est-ce qu'il a voulu raconter ? Est-ce qu'il est au premier degré, au deuxième degré, au xième degré ? Alors, j'ai trouvé le film très drôle.
donc, intéressant, quand même.
Donc voilà, mais on était peu à rire, mais on était une petite rangée à rire. Et j'ai trouvé le film très drôle, surtout qu'une fois qu'on rentre dans des délires. En fait, c'est un délire qui prend du temps à se mettre en place. Il se met en place de manière plurielle, donc il y a une sorte de mystère d'abord, vraiment assis par la musique, par une première ligne, en tout cas, de mise en scène. Et une fois qu'on est dans ce délire-là, qui commence à y avoir des choses mystérieuses, pour moi, le personnage de l'écrivain, le mari de Jennifer Lawrence dans le film, le mari de la mère, enfin en tout cas présumé, pour moi, il tient des discours qui sont juste hallucinants. Enfin, il a un grand discours sur le deuil. C'est le dialogue le plus ridicule que j'ai entendu, je pense, cette année. Enfin, un des plus ridicules que j'ai entendu. Par contre, après, Aronofsky met en place toutes des lignes qui ne développent pas. Et donc, il y a des mystères, par exemple, dans la cave. Et hop, on oublie et on part vers autre chose. Et donc, moi, c'est ça ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression qu'il ouvre trop de portes. Il les enfonce même, mais il ne va pas au bout de ce qu'il met en place. D'un point de vue scénaristique, par contre, il le fait. Et une fois qu'il entre sur une ligne totalement délirante. On est dans une forme de spirale qui tourne jusque une forme d'infini. Et là, c'est pas inintéressant, mais par contre, c'est un parcours, quoi.
Éric.
Ah ben oui, ben moi je vais un peu dénoter par Rémi tous ces commentaires. En fait, j'ai trouvé le film tout à fait à mon goût, mais bon, j'ai des goûts parfois bizarres, donc je reconnais que ça peut jouer.
Faut dire, vous êtes fan du bif.
Oui, voilà, je suis plutôt fan de films de genre et du film en général, de tous les films de ce type-là. Donc, effectivement, disons que je comprends, j'ai bien entendu les deux remarques et je trouve que bon, il y a une certaine vision qui est exacte et que je peux pas, et je ne vais pas d'ailleurs tenter de la démonter ou de changer ça. Simplement, ce qu'il y a qui est intéressant, c'est, je pense qu'il faut replacer un peu à Aronofsky là d'où il vient. Et moi, j'avais fait le rapport entre Peak et son premier film et David Lynch avec Eraserhead, par exemple. Je pense que ce sont des réalisateurs, ils ne font pas du tout la même chose, on est bien d'accord, mais ce sont des réalisateurs qui ont ce côté cryptique, totalement, parce que David Lynch, je veux dire, je mets au défi la majorité, sur certains films, mais dans la majorité des films, je mets au défi de reconnaître tout ce qu'a voulu dire David Lynch dans ses films. Il lance des pistes, elles ne vont pas forcément au bout. Ici, avec Aronofsky, on retrouve ça. Dans Pi, c'était exactement la même chose. Pi et Eraserhead sont très proches. Eraserhead en noir et blanc, Pi en noir et blanc. Ça parle d'un sujet qui, a priori, ne devrait intéresser relativement personne, mais ça donne toute la teneur, l'intérieur de ces réalisateurs. En fait, ces réalisateurs se livrent complètement, et du coup, c'est imparfait, forcément, parce qu'ils livrent quelque chose d'intérieur, ils ne le mettent pas en forme. On parlait dans l'interruption qu'on a eue, je citais Shining, au contraire d'un Shining où on a un Kubrick qui est un j'adore Kubrick, c'est mon réalisateur évidemment fétiche, mais c'est un réalisateur qui fait de la démonstration, c'est-à-dire c'est un brillant démonstrateur, c'est un brillant mathématicien de cinéma. Ici, Lynch ou bien Aronofsky, c'est pas du tout ça. Aronofsky, il crache ses tripes dans le film et il, voilà, avec les imperfections, ça. Et je dirais, il y a quand même une teneur, il y a quand même quelque chose qui passe dans le film, c'est la notion d'existentialisme. C'est-à-dire qu'on sent que derrière, chez Aronofsky, il y a vraiment une recherche de qui sommes-nous, d'où venons-nous, que faisons-nous, et ce film traduit ça. Alors, le traduit parfois maladroitement, parfois le traduit magnifiquement, évidemment. Parce que ce n'est pas un récit biblique, pas du tout. Mais par contre, c'est un récit religieux, clairement. C'est-à-dire que la mère, oui, mais quelle mère ? Il faut savoir que dans le film, à plusieurs reprises, Javier Bardem dit, à propos de sa femme, il l'appelle « goddess ». Ce qui veut dire « ma déesse ». Donc, évidemment, il l'appelle « ma déesse ». Donc, de nouveau, il fait une référence à de la religieuse, à de la religiosité de manière générale, et il fait ça pendant tout le film. Effectivement, on dirait un Bardem, on peut le voir comme un dieu, et je ne donne pas de religion là derrière, simplement c'est un dieu, un des dieux possibles, et en fait ce dieu, il est en train d'essayer de créer. Malheureusement, ce qu'il crée visiblement ne fonctionne pas, parce qu'il existe autour de lui une cour d'adorateurs, qui lui montre que, visiblement, il essaye de mettre autre chose en place et cette cour d'adorateur est toujours là, elle adore lui, mais n'adore pas ce qu'il fait. Donc, il se trouve avec une création qui ne fonctionne pas. Et donc, il relance cette création à l'infini. On ne va pas détailler comment, mais il relance cette création à l'infini. Et voilà, donc, il parle de ça et Aronofsky parle de ça et se met à l'intérieur de ce cercle de création et il essaye de nous dire... C'est peut-être ça que j'imagine, c'est peut-être pas ça, mais donc voilà, il essaye. Ce n'est pas forcément toujours réussi, mais moi j'ai beaucoup aimé.
Mais la grande différence, parce tu cites Lynch, mais Lynch avoue qu'il ne sait même pas de quoi il parle, qu'il va sur des pistes et c'est des rêves, des délires, des questionnements, il n'a pas de réponse et il ne sait pas quelle est la lecture qu'il faut donner à un de ses films. Ici, Aronofsky sait très bien, il refuse de répondre aux questions et il donne des indices. Et donc, comme indice ici, il dira juste que pour comprendre le film, il faut se référer au sixième jour. Et en même temps, une fois qu'on a cet indice-là, la lecture du film est limpide. Mais c'est ça pour moi le souci chez Aronofsky, c'est qu'il a un message clair, mais je vais pas dire qu'il l'assombrit, mais en tout cas il refuse de faire un commentaire dessus. Il sait ce qu'il met en scène, il sait exactement où il va, il sait quelle est son intention, mais il nous donne pas forcément la possibilité de la lire. Et moi je trouve que ça c'est un peu problématique.
Le sixième jour étant le jour de la création de l'homme et de la femme avant que Dieu se repose dans la Bible hébraïque et chrétienne.
Oui, sauf qu'il ne se reposera pas ici. Mais, on peut vraiment le relire pleinement. On a des indices même au niveau de...
Oui, mais tu vois, j'entends bien. Pour moi, la remarque, enfin en tout cas quand Aronofsky suggère ça, pour moi c'est une suggestion après film, après digestion, c'est une suggestion pour la critique, pour le public, mais c'est pas une suggestion que lui a fait au moment même, parce
dans le scénario c'est pas possible qu'elle soit pas là. Tu as
elle est là,
tu as la côte blessée, enfin tu as la cicatrice au niveau des côtes, tu as deux fils qui s'entretuent, il y a une lecture biblique
c'est vrai, elle est là, mais ça n'est pas que ça. Si c'était que biblique, alors il y a plein d'erreurs partout dans le film, et alors là le film ne tient plus du tout. Il faut pas que ce soit biblique. Si c'est biblique, c'est un film raté. Si c'est pas biblique, alors il y a une chance que ça fonctionne.
On ne sera pas fait, mais je vous entends, Véronique. Donc si on n'est pas biblique, on pourrait faire une émission d'une heure.
Tout à fait. Bon,
mais ici je suis animateur, donc je m'abstrais de toute critique du film. N'empêche que j'ai vu des pistes ouvertes et jamais fermées. Et ça m'a fortement manqué. Mais vous voulez intervenir, Véronique?
Oui, parce que après coup, c'est vrai qu'en avant-première, en promotion, il a donné des clés de lecture. Moi, je ne comprends jamais finalement le film comme les autres. J'avoue que j'ai cette espèce de don-là. Je trouve des ressemblances qui ne le sont pas, et dans les scénarios j'ai des lectures. Par contre, moi je l'ai interprété de cette manière-là. Lui est en effet poète et créateur, et elle est quelque part son inspiration. D'ailleurs, l'éditrice arrive à un moment donné dans la maison, et moi j'ai pas du tout eu de lecture biblique, j'ai plutôt eu une quête de je veux fournir quelque chose, j'ai besoin d'une muse ou d'une inspiration qui ne répond pas aux attentes, qui finalement ne l'aime plus. Il est en recherche d'amour de création, d'amour de sa femme, on ne sait pas trop. Mais moi j'ai pas eu du tout cette lecture biblique, j'ai une lecture, disons, plus primaire qui est il est créateur. Il a son inspiration. Une fois qu'il livre ce qu'il a écrit, finalement, les gens viennent chez lui et lui arrachent finalement son œuvre, qui est peut-être représentée par la maison. Donc le fait que les gens viennent arracher des pans de portes, des éviers, finalement, un auteur, quand il livre son écrit, ne lui appartient plus et chacun en prend ce qu'il veut. Donc moi, je n'ai pas du tout eu la même lecture que vous. Et Aronofsky peut donner n'importe quelle clé de lecture. Il en a donné, je pense, 3 au total. Un coup, c'est la mère nature et c'est censé être la planète Terre. Un coup, en effet, il y a des références un petit peu plus bibliques, on va dire ça comme ça. Et il y a cette espèce d'inspiration. Donc, peu importe la façon dont on le voit, finalement, chacun y mettra les allégories qu'il veut. Mais il faut que ça fonctionne. Et pour moi, par moment, j'ai trouvé qu'on allait presque dans du gore et certaines choses m'ont dérangé.
C'est même environnemental pour lui. À un certain moment donné, il a voulu faire une critique à ce niveau-là.
Moi, le gore n'est pas dérangeant. Moi, je trouve que le film part vraiment en vrille. Ça part dans un sens. Puis, ah ben non, finalement, on le recadre un peu ailleurs. Ah ben non, finalement, on va aller là. Par contre, la relation de couple est juste mais horrible, quoi. Elle est... Enfin, il objectualise complètement son actrice d'abord, puisque elle est, c'est un corps. Jennifer Lawrence dans le film est un corps avant d'être une personnalité.
Et puis corps qui a séduit le réalisateur en plus.
Oui, bon, ça c'est autre chose. On peut comprendre ceci dit. Mais donc il objectualise ce corps, mais cette personnalité, personne ne l'écoute. C'est le personnage qui s'exprime le plus dans le film, mais personne ne l'entend. Et ça, c'est assez intéressant, puisque pour moi, il fait une critique claire de l'humanité et de la catastrophe à laquelle court l'humanité si elle se comporte comme elle se comporte. Mais par contre, la place que l'humanité n'accorde pas aux femmes, c'est une vraie question.
Ce sera le mot de la fin. On ne va pas douter de ce film parce qu'on va entendre une autre bande-annonce. Et cette fois-ci, ce sera une bande-annonce en français. C'est un film qui s'intitule « Au témoin d'un doute ».
Monsieur Gourmelon, les analyses que nous avons effectuées révèlent que vous n'avez aucun gène commun avec Bastien Gourmelon.
Je n'ai aucun gène commun avec mon père.
Bastien Gourmelon n'est pas votre père biologique. Je suis désolé.
Tu comptes en parler à papy ? T'es pas curieux de savoir qui est ton père ?
J'en ai déjà un, ça me suffit.
Eh ben, quand je pense comment tu m'as fait chier pour que je retrouve le sien...
T'as un rencor !
Bonsoir.
Mais c'est quoi ton métier ?
Moi, je suis démineur.
Démineur de quoi ?
Démineur de bombes.
De bombes. Monsieur Gourmelon, j'ai identifié et localisé votre papa.
Je peux vous aider ?
Vous
auriez rencontré ma mère le 23 juin 1970.
Vous m'avez invité à prendre un café pour savoir si je suis votre père.
Papa ?
Vous avez une fille ?
Ne lui dites rien, s'il vous plaît.
Et c'est ma sœur.
Ne lui dites rien, mon garçon, s'il te plaît.
Ma fille, Anna, Erwan Gourmelon.
Ça alors ? Est-ce que vous êtes bloqué avec les femmes ?
Ah non, pourquoi ?
Si on a ressenti un déclic...
Regardez, vous n'auriez pas un ballon ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là?
On fait ce qui se fait quand un homme emmène une femme dîner au restaurant. La base quoi, on fait la base.
Je suis désolé. C'est important pour un enfant de savoir qui est son père.
Je sens qu'il y a quelque chose entre nous.
Tous ses défauts, il les a hérités de sa mère.
Et de toi? Il a hérité quoi de toi?
Votre père, vous diriez que c'est un type bien.
Qu'est-ce que vous avez avec mon père? Vous êtes gérontophile ou quoi?
Nous changeons radicalement de thème, de film, de genre, mais c'est un film cette fois-ci en français. Véronique, c'était quelque chose que vous appréciez? Vous avez demandé qu'on parle de ce film.
Ça a été mon gros coup de cœur. Enfin, un peu de légèreté dans cette émission et dans le cinéma de manière générale. D'entendre la bande-annonce, j'ai encore des sourires qui me viennent parce qu'on revoit ces scènes. J'avoue que je l'ai vu plusieurs fois et que je le reverrai sans doute encore souvent. C'est un film délicat, positif, lumineux. On sort de ce cinéma en se disant « Allez, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment emporté. » En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Le casting est excessivement bien interprété. On a un François Damiens en retenue, tout en finesse, comme on a pu le voir dans Tango Libre, dans La Délicatesse ou dans La Famille Bélier dans un autre genre. Le duo avec Cécile de France fonctionne. Les deux papas, mais on voudrait juste les avoir dans notre vie, il y a André Wims et Guy Marchand. Enfin, pour moi, ce film est d'un positivisme incroyable. Et puis, il y a ce Esteban qui a une espèce de personnage extraordinaire. Il paraît qu'il est comme ça dans la vraie vie aussi. Vraiment, pour moi, ce film est la comédie que j'attendais, qui répond à tout ce que j'aime dans la comédie française.
Un sentiment partagé ou pas, Eric ?
Mais... En tout cas, au niveau personnage, clairement, moi, ce qui m'a plu, effectivement, c'est que Karine Tardieu est partie, la réalisatrice, est partie d'une histoire qui est assez simple, en fait, et qui est assez traditionnelle, peu original en soi, hein, parce que un homme qui se rend compte que son père n'est pas son père biologique et qui se met à rechercher son père biologique, bon, on l'a vu et revu des dizaines de fois dans le cinéma, que ce soit le cinéma français, le cinéma américain ou quel que soit le cinéma. Mais ici, ce qui est la force vraiment du film, ce sont ses personnages. C'est clair que ces personnages apportent quelque chose, apportent une vue sur cette histoire simple qui est assez séduisante et qui fait qu'on accroche et qui fait qu'on se prend d'amitié pour ces personnages avec grande facilité. Voilà, donc moi j'ai peut-être moins d'emballement, mais j'ai aimé ce côté simple porté par des personnages qui sont effectivement magnifiques et qui ont des réparties assez cinglantes comme on a entendu dans la bande-annonce.
Nous sommes curieux de vous entendre, Nicolas.
Mais c'est simple, a priori. Je trouve que le scénario est sur une ligne simple et très complexe. La réalisatrice arrive justement à tisser plusieurs lignes de récit qui se répondent. Les personnages sont très bien développés. L'humour est présent dans les dialogues. Ça fonctionne très bien. Je ne suis pas pleinement emballé de la même manière. Je trouve que la comparaison avec La Famille Bélier est vraiment méchante ici pour le film, parce qu'on est quand même un niveau bien, bien, bien au-dessus.
De La Famille Bélier.
Ah oui, oui, ben La Famille Bélier, pour moi, on force le trait. C'est un film qui est pleinement outrancier. Ici, on a vraiment une finesse. On est proche de la caricature, mais sans tomber dedans. Les personnages, du coup, ont vraiment une saveur. Ils sont tous... très différent aussi, bien interprété. Alice de Lisanguin est vraiment, vraiment très crédible dans ce rôle de... Enfin, elle est assez dingue, Alice de Lisanguin, parce qu'on ne sait pas lui donner d'âge d'un film à l'autre. Elle est crédible à 18 ans, ce qui n'est pas le cas, vous le verrez, de Sarah Forestier, comme à 35. Et ça, c'est vraiment une des belles surprises. Esteban, on l'avait déjà vu dans... L'effet aquatique, où il avait aussi un rôle complètement barré. Et c'est effectivement, vrai. Il nourrit le film. Ce sont des petites touches comme ça. Et il y a aussi des scènes qui fonctionnent juste d'un point de vue visuel. Et ça, ça fait du bien aussi de revenir à une sorte de comédie un peu à l'ancienne et d'avoir des vrais gags qui fonctionnent. On sent qu'il y a un plaisir à amuser le public. En tant que spectateur, on est là en tant que spectateur. On sait que c'est du faux. On sait qu'on est dans un jeu de représentation. On n'a pas à croire à François Damiens au-delà peut-être du personnage, mais en même temps, on a envie de croire au personnage. Et c'est bien d'avoir, en tout cas dans le cinéma français, un film qui s'assume comme étant un film à personnage.
Oui, c'est clair que surtout dans le cinéma français et les comédies françaises qu'on voit maintenant qui sont vraiment largement en dessous de la moyenne, effectivement, là, il est largement au-dessus du lot. Et je rebondis un peu sur ce qu'a dit Nicolas, c'est que Il y a vraiment un réel, je parlais tout à l'heure que les personnages sont mis en avant, et il y a un réel comique de situation qui met ces personnages en avant. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement effectivement le personnage qui est bien brossé, ils sont très bien brossés, mais le comique de situation les met vraiment, les porte. Et quand le dialogue vient encore rajouter à ça et à ce comique de situation, alors on obtient quelque chose qui fonctionne très très bien, et on est très loin de... j'ai plus en tête, j'ai préféré l'oublier, mais un film français qu'on a vu dernièrement, ou une comédie justement, où il y a une série de sketchs, point à la ligne. Ici, on n'est pas du tout dans ça. Il y a vraiment une continuité, il y a vraiment quelque chose qui naît des personnages, et ça, c'est assez rare pour l'instant, en tout cas. J'espère que ça va revenir.
Alors qu'il s'agit d'une comédie, mais François Damiens arrive à donner une dimension presque dramatique à son personnage.
C'est en ça que je faisais la comparaison avec La Famille Bélier. C'était pas du tout dans le film en lui-même, mais dans son jeu à lui. Je trouve qu'il est capable de faire des choses en retenue. C'est pas le Dick Connect qu'on a l'habitude de voir. C'est loin d'être le François Lambrouille. Mais c'est un personnage qui arrive à se contenir d'une certaine manière, à avoir une certaine sobriété que certains ne sont peut-être pas prêt à accepter, puisque pour eux, ça reste le François Lambrouille, alors que ce comédien, pour moi, n'est jamais aussi bon que quand il est dans une certaine retenue, dans une certaine émotion brute.
On peut dire que c'est entre les cow-boys et La Famille Bélier.
Exactement, oui, allez, on va dire ça.
On n'a pas de caméra dans le studio, mais vous, Nicolas, vous avez une réaction, vous trépignez d'impatience.
Non, mais moi j'ai beaucoup de soucis avec La Famille Bélier. Je trouve que c'est un des films les plus les plus pourris qui soient. Je trouve qu'il y a aucun respect pour les sourds et muets. Je trouve que, enfin voilà, c'est un des films, mais qui vraiment j'ai eu du mal à le voir. Je trouve que c'est mal joué, c'est surjoué, et donc du coup je trouve que c'est une comparaison qui
de nouveau pas flatteuse,
qui est pas flatteuse. Et moi je rangerais plutôt La Famille Bélier du côté de Dick Connect, mais parce qu'ici justement on a beaucoup d'empathie pour tous les personnages, et ça c'est une des forces, c'est de réussir à pouvoir, et c'est peut-être justement parce qu'on est dans un jeu de représentation, et du coup on peut avoir de l'empathie pour tout le monde. On n'est pas dans un axe précis. Certes, le personnage de François Damiens, c'est vraiment le protagoniste du film, mais en même temps, on arrive à partager l'émotion de tout le monde, et même on a, ce qui est assez agréable, des vrais seconds rôles, même au-delà des seconds rôles, des tout petits rôles, mais qui sont récurrents. Et le fait qu'ils soient récurrents, pour des gags justement, mais permettent de créer plein de complicité avec le spectateur que nous sommes.
Et notamment le rôle d'Esteban qui apporte une touche comique involontaire.
Oui, mais on a une foraine aussi, qui a un tout petit rôle, mais qui permet vraiment de ponctuer. C'est là où on se rend compte qu'en tout cas, il y a eu énormément de versions de scénario derrière pour réussir à ce que chaque chose semble millimétrée dans le film.
C'est vrai qu'on parlait d'une histoire simple. Il y a énormément de quiproquos. Il y a plein de petites choses qui sont lancées, qui se réunissent.
Il y a un suspense aussi un petit peu qui est maintenu durant le film et maintenu de manière intelligente, me semble-t-il, sur cette rencontre avec la fille de...
Oui. Et puis la recherche du père est aussi un suspense en soi, parce qu'il le trouve. Mais bon, on ne va pas gâcher le plaisir, mais... Ça reste un point de suspension, on ne sait jamais, et ça c'est très bien. Je trouve que voilà, Karine Tardieu a réussi vraiment quelque chose qui visiblement, en tout cas, nous fait plaisir à tous les trois, et je pense fera plaisir vraiment au public, à mon avis.
Véronique, on a encore 5 minutes pour parler de ce film. C'est votre coup de cœur, allez-y.
Ah, vraiment.
Lâchez-vous.
Je voulais dire que François Damiens avait expliqué dans les interviews qu'on a pu faire avec lui que la complicité avec Andrew Wims avait été totale et ça se ressent véritablement à l'écran. Il expliquait que ce comédien, qui est pourtant bien plus âgé que lui, avait cette espèce d'âme d'enfant et c'est vrai, ça fonctionne. Vraiment, ils sont lumineux les deux. Physiquement, moi, je n'avais pas reconnu Andrew Wims. Moi, je ne l'ai pas souvent vu avec des lunettes, cette barbe, Guy Marchand et touchant. Il est aussi en retrait et je trouve que vraiment... on sent que ces acteurs qui n'ont finalement pas passé beaucoup, beaucoup de temps ensemble ont vraiment réussi à créer quelque chose et que ça, pour moi, ça transperce l'écran. J'ai vraiment pris ça comme un cadeau. Ça a vraiment été, on a fait un truc ensemble, on livre ça, la complicité qu'il y a eu dans le film et en dehors du film. Et vraiment, moi, c'est un film qui m'a touchée pour ça aussi. C'est un film vrai, dans tous les sens du terme, dans le film qu'on voit, mais à mon avis, l'interprétation et les connexions qu'il y a eu sur le tournage.
Parce qu'avant d'aller en projection presse ou de le voir en salle, quand on voit le synopsis, on se dit encore une comédie française qui va jongler avec du n'importe quoi.
Oui, ça je dirais pas forcément, mais parce que il faut pas. Enfin, je sais pas si vous faites référence, Charles, à ce que je disais du côté simple du scénario. Mais pour moi, la simplicité c'est pas négatif, c'est simplement et l'absence d'originalité par rapport à la trame. Je parle. C'est là, mais du moment que c'est bien servi par ailleurs, il n'y a pas de souci. Et parfois, même une histoire simple peut amener à des détours qui sont plus complexes. Et c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure. Et c'est vrai, ici, on a des choses assez complexes qui se mettent en place. Ne fût-ce, pour en revenir effectivement à l'essence du film, c'est étonnant de voir ce père qui recherche son père biologique et de l'autre côté, sa fille qui ne veut absolument pas entendre parler du père biologique de son enfant et qui veut surtout pas le rechercher, elle le connaît, mais bon voilà, elle ne le veut pas.
C'est une belle surprise du film.
Oui, c'est une belle surprise du film. Donc, je veux dire, de ce côté-là, c'est assez amusant de voir ce parallèle entre les deux. Et là, on est effectivement dans une trame simple, mais avec c'est pas des rebondissements, mais en tout cas, avec des tenants et des aboutissants qui sont un peu plus complexes.
Et des enjeux qu'on est libre d'interpréter.
Oui.
Et ça, c'est assez intéressant dans une comédie française. On ne nous impose pas un point de vue.
C'était le deuxième film de la réalisatrice. Il y avait du vent dans les mollets.
Elle en a fait trois, je les avais indiqués. Donc, le vent dans les mollets, la tête de maman, c'est ça. Ouais.
Qui était très intéressant aussi.
C'était quel registre de film là?
De nouveau, un registre avec le rapport avec un enfant. C'était assez intéressant.
Pas uniquement comédie.
Non, je ne dirais pas, non.
Ici, elle a été servie par une très très belle promotion, je pense, un très chouette film, et on a vraiment envie de se pencher du coup sur son cinéma qu'on ne connaissait peut-être pas jusque-là.
Envie de revoir dans... Vous avez vu tous ses films, Nicolas, ou non?
Non, mais par contre, il y a eu une mise en avant, elle était à la quinzaine à Cannes, et ça a bien tourné.
Oui. Encore un petit mot, nous reste une minute.
Le décompte, oui,
je dois
gérer
le temps avant la dernière partie du film.
Sinon, je peux dire que Mother a reçu un F sur le site CinemaScore. Je n'ai pas pu le caser tout à l'heure. Faisons des petits va-et-vient dans l'émission.
Oui, je vous autorise, ça me permet de combler le temps.
Eh bien voilà, donc c'est exceptionnel. Hein. C'est le 13e film à avoir reçu la note F sur CinemaScore.
Ça veut dire que c'est très bien.
Ce sont les très mauvais films, les films qui ont choqué les Américains. Oui. Donc tout ça pour dire que...
Oui, je comprends que ça choque les Américains.
Oui, ça,
et en
clair,
soi, pour moi, ça rend peut-être le film intéressant.
Oui, non,
ça n'a pas choqué.
Ce n'est pas un bon critère.
Mais en revanche, ça n'a pas choqué François.
Ah, il a adoré, c'est certain. Oui. Autant servir le film et autant que quelqu'un de notre rédaction en parle de façon positive. Mais on était vraiment très divisés à la sortie
du
film.
Vous étiez divisés, vous l'êtes encore.
Oui, je crois qu'il pourra regarder le DVD tout seul à la maison. Je ferai une petite soirée pyjama ailleurs.
Mais c'est un film qui divise, hein, de toute façon.
C'est au moins la force de ne pas laisser indifférent.
Indifférent.
C'est parfait.
Nous ne serons pas indifférents à la dernière partie de l'émission. Donc, je vais vous faire entendre le jingle qui est tiré de Amicalement Vôtre. C'était repris par Bertrand Bonello. Le titre de la dernière partie n'est pas Amicalement Vôtre, mais Amicalement Nôtre, où nous aurons l'occasion de pouvoir exprimer un coup de cœur ou un coup de gueule. La fois dernière, quelqu'un a exprimé un coup de barre. Donc, nous allons voir ce que ça va donner.
Thank you.
de cœur ou coup de gueule, je vais céder la parole à Eric peut-être.
Oui, un petit coup de cœur pour une fois, oui, parce que moi j'ai l'habitude de faire des coups de gueule, donc on va faire un petit coup de cœur pour un film qui s'appelle Wind River, qui est un film qui, à mon avis, va... J'ai peur qu'il passe un peu inaperçu. Bon, c'est pas de nouveau le grand film.
Mais il est sorti ce mercredi.
Oui, hein. c'est un polar de. C'est un deuxième film, donc c'est un polar d'un
première réalisation et troisième scénario.
C'est un réalisateur qui s'appelle Taylor Sheridan. Et effectivement, c'est un film vraiment réussi au niveau de l'ambiance, au niveau du scénario qui reste de nouveau dans le polar plutôt noir. Mais il y a des implications dans le film qui sont assez complexes. Il y a aussi une réflexion sur les Amérindiens. Il y a une réflexion sur la femme, la place de la femme. Peut-être chez les Amérindiens, mais pas que, hein, parce que je pense que quand on voit les bêtes sauvages qui l'agressent, on a compris que la réflexion, elle va plus loin. Et donc, je pense que c'est un film qui mérite d'être vu. Il a une petite ambiance, pour ceux qui l'auraient vu et des auditeurs qui l'auraient vu, une petite ambiance à la Sergio Corbucci, le Grand Silence avec Jean-Louis Trintignant, c'était ça, et qui se passe dans la neige. Donc ici aussi, tout se passe dans la neige, dans une réserve amérindienne, mais dans la neige et pas dans les steppes et sous le soleil dur. Donc il y a à la fois du polar, à la fois du western, et je trouve que c'est une belle réussite. Ça vaut la peine d'aller le voir.
Et une réflexion humaine en même temps.
Tout à fait.
Taylor Sheridan, donc Wind River. Véronique.
Eh bien, moi, c'est un gros coup de cœur qui me vient du Festival de Deauville, où nous étions au début du mois de septembre. C'est un film qui a reçu 3 prix, celui de la critique, le Grand Prix du jury, ex aequo avec un autre film, et qui a reçu le prix de la révélation, c'est A Ghost Story. Alors, je pense qu'il va être distribué chez nous parce que c'est Universal qui le distribue en France. Donc, j'espère
ça
peut-être
ne veut rien dire.
Que
ça
les
ne
Belges
veut rien
pourront
dire.
Le voir. J'avoue que j'ai vraiment aimé ce film parce qu'il est rempli de poésie. Il est très, très lent, c'est vrai. Il y a une scène où René Mara mange une tarte 10 minutes chrono en main. On la voit manger sa tarte.
Un plan séquence.
Oui, vraiment, il faut aller au-delà de ça parce que pour moi, c'est un film qui a énormément de messages. Casey Affleck décède. On le revoit sous forme de fantôme qui est juste sous un drap blanc. Il arrive à faire passer un désarroi, une émotion juste par son attitude et sa posture, on ne le voit plus jamais. Et ce que j'ai vraiment, vraiment apprécié dans le film, c'est sa bande originale de Daniel Hart. Je me suis d'ailleurs commandé le vinyle parce que je l'écouterai en boucle. Pour moi, c'est vraiment une petite pépite qui se mérite. Il faut aller au-delà de cette lenteur, au-delà de cet aspect un peu rédhibitoire, parce qu'on peut y trouver ce qu'on veut. Il y a plusieurs clés de lecture et c'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est que chacun puisse y mettre les émotions qu'il veut et trouver une lecture qui lui convient.
Donc, c'est quel genre de film
c'est un film dramatique. C'est David Lowery qui le réalise. Il avait fait Peter et Elliot le Dragon, version moderne. Et je peux dire que voilà, ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment un drame lent, un film d'auteur indépendant dans le premier sens du terme. A Ghost Story, très très beau film pour moi, c'est mon coup de cœur.
À vous la parole pour clore cette dernière partie de l'émission,
et
Nicolas.
Puisqu'on est à la veille du FIF, pour moi j'ai un gros coup de cœur qui sera au FIF, qui sortira seulement en janvier en salle, qui est projeté déjà avant pour les journées promo cinéma à 4 euros là, qui arrivent, ou à moitié prix, je ne sais pas ce qu'ils ont fait cette année.
Et à donc, moitié prix normalement, oui.
Voilà, et donc c'est « Laisser bronzer les cadavres », Hélène Cattet et Bruno Forzani. C'est l'avantage de ne pas pouvoir débattre du film et de pouvoir juste donner mon avis.
Mais pour vous moi, avez donné 4 cœurs sur votre site.
Ah, j'ai donné mon maximum, moi j'ai eu le plaisir de voir le film tout seul dans une salle, et ça a été mais juste jubilatoire. Donc c'est un duo de réalisateurs, ils ont fait « Amer », ils ont fait... L'étrange couleur des larmes de ton corps en long métrage. Ils ont d'abord rendu plutôt des hommages au giallo. Ils sont vraiment dans un cinéma qui questionne la sexualité, qui questionne le rapport aussi au corps et aussi le rapport aux femmes. Et le tout mélangé. Et ici, on est dans un pur thriller. C'est presque une comédie. En tout cas, c'est voulu comme une comédie de la part des réalisateurs. Ils se moquent du film de genre, tout en faisant un film de genre. Et c'est un film qui est complètement bricolé. La bande-son est entièrement refaite, totalement en post-synchro. C'est un film, pour moi, totalement magique. Il joue avec nous en tant que spectateurs. On s'en prend plein les yeux. Et c'est, pour moi, juste jubilatoire.
Merci beaucoup. Eric, merci d'être venu partager vos avis sur les films.
Avec plaisir.
Nicolas, merci.
Avec plaisir.
Véronique, un grand merci.
Merci
et
à vous.
On vous retrouvera dans les salles ou dans des festivals.